9h24, il aurait eu 100 ans le 18 juillet dernier. L'un des personnages les plus marquants de l'histoire moderne du nom de Nelson Mandela. Et pour commémorer le tout, c'est une brique, là. C'est 770 pages de lettres, entre autres, écrites pendant 27 ans de détention de Nelson Mandela, qui ont été recueillies. C'est du matériel, la plupart inédit. Certaines ont été censurées, même. Il y a du matériel qui était difficilement lisible. Ça a été... Et des lettres qui ont jamais été envoyées. La préface de ce bouquin est signée de notre invitée de ce matin, Lucie Pagé, journaliste et auteure. Elle est de passage au Québec pour quelques mois, me disait-elle il y a quelques minutes. Bonjour, Mme Pagé.
Bonjour.
C'est un personnage qui fascine Nelson Mandela. Et vous avez eu l'occasion, pour pas dire la chance, de le côtoyer.
Le privilège, l'occasion, la chance, c'est tout ça. C'est une bénédiction. Vous parliez des lettres. C'est pas toutes les lettres, hein. C'est une sélection. Et ce livre a pris 10 ans à colliger. À cause justement des censures et tout ça. Mais j'ai découvert dans ce livre davantage un homme que je croyais bien connaître, mais il se dévoile. Parce que quand on écrit une lettre, quand on parle en public ou on écrit pour le public, on se retient un peu.
Oui.
Quand on écrit une lettre à quelqu'un de privé, on s'ouvre le cœur.
Mm-hmm.
Donc, on plonge dans ce qui est le plus sacré chez un être humain, qui est son intimité. On plonge dans l'intimité, dans le cœur de Mandela et on pleure avec lui parce que ne pas pouvoir être là pour ses enfants. Les lettres étaient son seul outil parental.
Et il pouvait pas écrire très souvent, là, ce qu'on...
Non, des fois c'était deux fois par année, la même chose pour les visites. Et il prenait toutes les lettres qu'il écrivait, il les transcrivait dans un autre cahier. C'est la raison pour laquelle on a un livre comme ça, parce qu'on en a trouvé beaucoup là. Il écrit à sa femme de beaucoup de lettres d'amour. Il écrit aux geôliers, aux ministres. Et on voit que par ses lettres, il a ouvert la porte à la révolution négociée. Ce qui s'est produit en Afrique du Sud, c'est un miracle politique. Et avec ses lettres, il a pu, en catimini, même de ses collègues, personne ne le savait, écrire à P.W. Botha, qui était le président de l'époque. Et c'est ce qui a commencé l'ouverture et sa libération. Il a ouvert lui-même. Ses lettres étaient sa liberté en prison.
Passer autant de temps, 27 ans en détention, pour garder ses idéaux, pour se battre pour une cause qu'il... jugé noble, le temps lui aura donné raison. Vous l'avez côtoyé. Comment il était, Nelson Mandela, dans la vie de tous les jours?
Dans la vie de tous les jours, il était tellement humble. C'était sa plus grande qualité, son humilité. Vous savez, l'émission d'Oprah Winfrey, il a demandé « Ah, c'est quoi le sujet aujourd'hui? » C'était lui toute l'heure, tu sais, mais c'était honnête. Donc, il avait une grande humilité. Il était un grand stratège. Et une de ses grandes qualités était sa candeur. Il faisait facilement confiance, mais il était un homme de cœur. Et souvent, il disait que le plus grand voyage qu'un être humain puisse faire, c'est de la tête au cœur, des émotions d'agressivité, de colère aux émotions d'amour et de compassion. Moi, ce que j'ai appris aussi dans ce livre-là, il avait toutes les raisons du monde pour se venger, mm-hmm. pour vouloir crier sur les toits sa colère. Et il a gardé le calme, il a gardé la persévérance. Jamais il n'a baissé les bras,
et
jamais.
C'est drôle que vous dites ça parce qu'on regarde l'actualité contemporaine et on a des exemples qui sont totalement le contraire. Parce que je prends l'exemple de Aung San Suu Kyi, qui, je vais massacrer son nom, je m'en excuse, mais qui a repris le pouvoir et qui est en train de faire mal à partir au Rohingyas, entre autres. Et c'est quelqu'un qui a été en détention pendant des années, aurait dû comprendre ça. Et on se rend compte avec le temps qu'en la plaçant au pouvoir, règle ses comptes avec tout le monde, finalement.
Oui, c'est ça.
Ce que Mandela n'a pas fait.
Il n'a pas... Quand il est sorti de prison, après 27 ans, 10 052 jours, il a tendu la main au chef du parti qui l'a emprisonné pendant 27 ans. Il a dit « Bâtissons un pays ensemble ». Il a marqué le ton. Et personne... Il a toujours été honnête et fidèle à ses principes et ses valeurs. Il avait plus que de l'intégrité. Il avait une probité. Et ça, dans ses lettres-là, on le voit tout au travers de ses lettres. Et quand il est sorti de prison, il a dit « Si la vengeance m'habitait, ce pays sera à feu et à sang. » Il a dit au sujet de la vengeance, c'est comme boire un poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Alors, il était fidèle à ses valeurs, sa philosophie d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis à travers les autres. Il a toujours eu cette philosophie d'Ubuntu, qui est une grande philosophie en Afrique. Il a toujours appliqué, il a toujours pratiqué ce qu'il prêchait. Il n'y a jamais personne, même aujourd'hui, qui va arriver et qui va dire, oh, il m'a volé ça, ou il m'a menti, ou il m'a pogné les fesses. Tu sais, je veux dire, on a des surprises, mm-hmm. parfois avec des politiciens qui sortent. Jamais on va avoir ça avec Mandela. Jamais, jamais.
Lucie Pagé, vous l'avez côtoyé parce que votre mari a siégé avec lui.
Mm-hmm.
Il était son bras droit, carrément.
Oui. Et c'est lui qui est allé le chercher en prison, le 11 février 1990. Et Jay est devenu, il était secrétaire général du Congrès des syndicats sud-africains qu'il a fondé en 85. Et quand Mandela est arrivé, il a demandé à Jay, est-ce que tu voudrais être mon bras droit dans mon bureau? Donc, il a été nommé responsable du programme de reconstruction et de développement dans le bureau du président. C'est-à-dire qu'il gérait tous les ministères pour inclure un angle de développement social dans tous les ministères pour que ça atteigne toute la population, ce qui n'était jamais arrivé. Parce qu'il faut se souvenir quand Mandela est arrivé au pouvoir, contrairement à beaucoup de leaders dans le monde comme Zimbabwe, Mugabe au Zimbabwe et d'autres, il est arrivé puis il a dit non, la fonction publique qui était toute blanche, qui ne servait que les blancs, il a dit on vous garde, on ne veut pas vous envoyer, on veut travailler avec vous. Pas sans vous, pas contre vous, avec vous. C'était cet esprit de réconciliation. Et on marche aujourd'hui dans les rues de Johannesburg et c'est multiracial. Les terrasses, c'est noir, blanc, indien, métis. C'est sûr que le progrès social est plus lent en région rurale. Mais en général, ce pays-là a pris la bonne route. Peut-être pas le bateau, ne vogue pas peut-être aussi vite qu'on le voudrait, mais il vogue dans la bonne direction.
C'était l'une de mes prochaines questions. Je veux y revenir dans quelques minutes. Auparavant, on connaît souvent par le nom Madiba.
Oui.
Son surnom Madiba.
Oui, c'est son nom.
On l'appelait Madiba.
C'était son nom de clan du clan Madiba et c'est devenu un surnom affectueux que les gens qu'il connaissait assez bien pouvaient l'appeler. Moi, il m'avait donné la permission de l'appeler Madiba. Mon mari l'appelait Tata Madiba. Tata, c'est père, mais dans le sens de avec un grand P. Il était le père de la nation. Puis on va appeler les hommes aînés Tata, les hommes moins aînés Baba. Donc on a tout un système. Donc il y avait Tata, il y avait mais il n'a jamais employé son vrai nom avec lequel il était baptisé, qui est le Rolly Schlachla. Nelson, il l'a eu à 6 ou 7 ans quand il a commencé l'école. La maîtresse d'école a dit non, on regarde pas les noms noirs ici. Vous allez être civilisé, vous allez avoir des noms blancs. Et il a été baptisé Nelson. Puis il sait pas pourquoi.
Et il a jamais voulu retourner à cette origine-là?
Non, à cette époque-là, on ne pouvait pas.
Il pouvait pas.
Non, parce que si il a, à 7 ans, il ne comprenait pas qu'il pouvait défier le système. C'est venu un peu plus tard, mais il était trop tard, il gardait son nom.
Racontez-moi, là, vous avez fait référence à l'Afrique du Sud, que vous habitez toujours.
Mm-hmm.
Et cette évolution, qu'en est-il maintenant, plusieurs années plus tard, avec la fin de l'apartheid, puis l'héritage de Mandela, il en est ou en 2018?
L'héritage de Mandela, c'est un pays qui fonctionne. Tout un pays qui vit relativement pacifiquement. On a eu des problèmes de leadership. Comme partout sur la planète, il y a une crise de leadership. On a eu un Jacob Zuma qui a été corrompu, qui a sali le nom de l'ANC et de Mandela. Il n'est plus là. Il y a Cyril Ramaphosa qui est vraiment un bon homme. On verra pour la suite des choses. C'est un pays qui s'inscrit dans la problématique mondiale de l'écart qui s'agrandit entre les riches et les pauvres. C'était déjà un pays qui avait un grand écart. Alors, il suit ce courant mondial-là. Il y a énormément de défis encore, mais ce que Mandela a laissé, ce sont des institutions en ciment, pas en paille, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions démocratiques qui fonctionnent, il y a la Constitution, une des constitutions les plus avant-gardistes au monde. Et il a laissé cette magie, on appelle la magie de Madiba, quand en Afrique du Sud, on en parle beaucoup, d'inclure tout le monde. Ici au Québec, quand je donne des conférences dans les écoles ou les cégeps, je demande aux jeunes qui votre concierge dans l'école, puis la plupart du temps, ils ne savent pas. J'ai dit, hey, qui c'est qui ramasse votre pipi, votre caca tous les jours, là? Arrivez-vous à l'école avec votre brosse à toilette? En 24 heures, s'il ne fait pas son travail, vous allez connaître son nom. Et Mandela, c'était ça. Mandela reconnaissait la personne invisible, celle par qui nous sert le café, qui nous ouvre les portes, mm-hmm. qui nous rend la vie plus facile, celle par qui le monde s'effondrerait sans ces gens invisibles-là. C'est de voir ces gens-là et de reconnaître qu'ils ont autant de dignité que quiconque. Peut-être y a-t-il des emplois qui sont plus importants que d'autres, mais le message de Mandela et ce qui perdure, c'est qu'il n'y a pas d'êtres humains qui sont plus importants que d'autres.
Parlez-moi un peu du pays, parce que on m'a dit que c'était la terre d'opportunité. C'était la porte d'entrée vers une terre d'opportunité dont les grandes puissances occidentales s'arrachent carrément ses possibilités. L'Afrique a énormément de pour les entreprises technologiques, entre autres, là, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. C'est vraiment un territoire qui est très, très convoité pour développer des technologies. Et l'Afrique du Sud en est la porte d'entrée. Comment vous dites qu'il y a un écart entre les riches et les pauvres, mais les gens connaissent peu l'Afrique du Sud. Là. On a les images de Johannesburg, on se rappelle de Mandela. C'est un pays qui ressemble au nôtre. Ça ressemble. Comment on y vit en Afrique du Sud?
On vit bien, on mange bien. C'est la capitale gastronomique de tout du continent africain qui compte 54 pays. Vous savez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la crise d'eau à Cape Town. Il y a une grande ville, 2 millions d'habitants qui n'ont plus d'eau. C'est la première au monde. Puis on disait, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas gérer. Oui, il y a eu des erreurs de gestion, il y a eu des erreurs de commise. Mais la source de cette crise d'eau-là vient d'ici, vient de l'Occident. C'est nous, avec nos activités, qui influent énormément sur les changements climatiques. En Occident, nous prenons l'équivalent de 4 planètes par année pour subvenir à nos besoins irréels. En Afrique, on prend une demi-planète par année. Donc, les conséquences, et c'est prouvé scientifiquement, ce sont les gens dans les endroits les plus pauvres, avec déjà des endroits arides et secs, comme l'Afrique du Sud. Il n'y a pas un lac en Afrique du Sud, il y a quelques rivières, c'est un pays très sec. Donc, et les compagnies canadiennes et autres qui pillent et violent ce continent qui est le plus riche au monde de ses minerais, de ses diamants, son or, de son coltan avec lequel on fait nos téléphones cellulaires. Nous, on change nos téléphones cellulaires à toutes les années, à tous les 6 mois. Et si on comprend que ce sont les 2/3 des gens qui vont chercher ce coltan-là, ce sont des enfants. Et pour chaque kilo de coltan, 2 enfants meurent. Alors, faudrait commencer à s'inclure dans la problématique de l'Afrique et mondiale, que
mais
nous sommes responsables.
Voyez-vous un changement, Lucie Paget, parce que je pose la question. Ce qu'on me racontait, c'est que ce que vous dites là, c'est réel, là. C'est pas une invention, là. Mais qu'on voyait aussi un changement parce que les gouvernements africains sont de plus en sont un peu, pas réticents, mais quand on voit quelqu'un arriver en disant « Vous viendrez pas vous installer ici avec vos affaires, avec votre monde, puis nous autres, dans le fond, nos citoyens vont ramasser votre merde ensuite. » Si vous voulez participer au développement, vous pensez que vous avez une solution pour nous autres, ben vous allez nous inclure dans la solution.
Oui, exactement.
Ce changement-là existe?
C'est peut-être, il est très lent. Pour l'instant, je trouve que c'est encore nous et eux.
OK.
On parle de eux, on s'inclut pas là-dedans. Et si on avait vraiment les valeurs de Mandela, parce que c'est lui qu'on fête avec son centenaire, on ne ferait pas ce qu'on fait en Afrique. Les compagnies occidentales, par exemple, qui vont tout faire pour ne pas payer de taxes, pour vraiment s'y piller. Je ne sais pas si vous avez vu des images du delta du Niger. Les gens, un des endroits où on retire le pétrole, un des endroits où les gens créent une richesse en Occident, mais c'est un des endroits les plus pauvres au monde pour les gens qui vivent autour. Donc, on n'a pas cette compassion-là, et c'est ça qu'il faut développer. On ne peut pas continuer dans un système économique comme ça, où il faut exploiter des gens en le sachant, et puis qu'on se ferme les yeux, ou on ferme la télé, mais on ne veut pas le savoir.
Lucie Paget, merci infiniment d'être venue nous visiter. Bon séjour au Québec et bon retour éventuel chez vous en Afrique du Sud. Merci, c'est très gentil.
Merci.
Lucie Paget, journaliste et auteur, on parlait des 100 ans de Nelson Mandela.